bonsoir à tous. Je pense que j'ai peut-être salué, je crois avoir salué tout le monde. Hein, donc bienvenue à cette discussion. Vous le savez, bonjour. Vous le savez peut-être, vous l'avez compris, cette réunion, elle entre dans le cadre de la campagne pour les élections européennes. Hein, donc, nous présentons une liste ouvrière contre le grand capital, le camp des travailleurs. Et donc, j'anime un certain nombre de réunions comme ça, publiques, avec aussi Jean-Pierre Mercier, que vous connaissez peut-être, qui conduit la liste avec moi. Donc, lui, ce soir, il est au Creusot, par exemple. Donc, voilà, on sillonne comme ça le pays hein, pour animer cette campagne. Voilà. Sur cette liste des européennes, il y a aussi Michel. Donc, peut-être que tu peux te présenter en quelques mots.
Bon, Michel, alors, je travaille chez Michel Darras, voilà. Bon, et j'habite Lens, hein, et je travaille à la Française de Mécanique. Tout le monde connaît dans le coin. Hein, et voilà, une grande usine de PSA, hein, représentative en fait de la puissance un petit peu des grands groupes aujourd'hui dans la société. Hein, bon, même si on a beaucoup baissé, évidemment, ça reste une entreprise importante. Voilà. Bon, il y a beaucoup de monde ici qui connaissent déjà mon nom parce que justement il y a des camarades de toutes les entreprises, d'un peu des entreprises du coin.
Alors, il y a beaucoup de places devant, si ça vous dérange pas, il y a des belles places qui vous attendent devant. Bonjour. Et on n'a pas démarré la réunion, ça tombe bien. Ah non, mais il ne faut pas rajouter des chalutes. On va passer le temps. Ah, super, super. Bonjour. Dans la situation, le sens aussi de notre campagne électorale, mais je voudrais surtout qu'il y ait une large part laissée à la discussion. Donc après cette introduction, ça sera à vous de prendre la parole, de dire ce que vous en pensez et puis de discuter. Alors j'ai envie de commencer quand même sur ce qui s'est passé samedi dernier et sur la casse qu'il y a eu aux Champs-Élysées. Je suppose que tout le monde en a entendu parler, hein, et pour cause, je voudrais partir de là, et puis évidemment des réactions du gouvernement. Alors d'abord, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je tiens à dire que nous, cette stratégie que quelques-uns ont eue la samedi, hein, les Black Blocs en particulier, hein, cette stratégie de casser systématiquement toutes les vitrines, hein, pour nous, c'est pas du tout ça. S'en prendre au capitalisme, c'est pas ça. On pense que ce sont des méthodes en fait qui sont stériles et qui en plus ont quand même le gros inconvénient d'affaiblir en fait la mobilisation, parce qu'en réalité ça divise. Il y a eu quand même, y compris des actes complètement inconscients, hein, ce samedi, hein, avec le fameux, cette banque qui a été brûlée, etc. Hein, donc voilà, nous on n'a pas du tout, c'est pas du tout nos méthodes, et on pense pas du tout que ça soit des méthodes et une politique correspondant aux intérêts des travailleurs. Bon, ceci étant dit, je pense qu'on peut que comprendre et même partager l'exaspération, la révolte et la rage qu'il y a derrière cette casse. Voilà. Et encore plus maintenant, quand on les a vus réagir, les uns ou les autres. Parce que franchement, pendant une semaine, hein, c'était quand même juste insupportable. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, j'ai trouvé que cette mise en scène, ce sensationnalisme, hein, ce déluge d'indignation, de condamnation, hein, toutes ces déclarations consistant à dire la France a été attaquée, etc., c'est insupportable, hein, parce que ils n'ont pas le dixième de cette indignation-là quand une usine ferme, par exemple. Quand la vie de milliers de gens est foutue par terre à cause du chômage, à cause de la misère et de la précarité. Hein, aujourd'hui, dans ce pays, il y a quand même 6 millions de chômeurs, il y a 9 millions de femmes et d'hommes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il y a des gens qui sont littéralement abandonnés et qui doivent se débrouiller pour vivre avec rien du tout. Hein, et puis, c'est la violence de toute la société avec toutes ces injustices. Ça va de l'exploitation quotidienne, hein, où la vie, la santé des gens, elle est démolie, mais ça va aussi, ça passe par le racisme, ça passe par un tas d'injustices que les gens se prennent en pleine figure. On est dans une société qui est violente, et cette brutalité-là, qui est quotidienne, eh ben, au bout du compte, elle est acceptée, hein, et tous ces gens-là qui nous font aujourd'hui des leçons de non-violence, eh bien, ils nous expliquent que ça, c'est normal, que tout ce qu'on subit, nous, hein, le monde du travail, c'est normal, il faut l'accepter, il n'y a rien à faire, on ne peut rien y faire, etc., etc. Alors ça, c'est révoltant. Moi, je pense aussi, prenez l'exemple de l'écroulement de ces deux immeubles, rue Aubagne à Marseille, hein, 8 morts, ça a fait, 8 morts. C'est le problème du logement insalubre. Et on sait que ce problème du logement insalubre, ce n'est pas que à Marseille. C'est dans plein d'endroits. C'est dans plein d'endroits. Et on a un gouvernement qui nous explique qu'il ne peut rien faire. Qu'il ne peut rien faire, qu'il est appuyé. Enfin, voilà. Hein, on ne voit pas de mobilisation générale sur ce terrain-là. Hein, ni sur le terrain du chômage. Alors que, honnêtement, un emploi, c'est le premier droit, enfin, c'est le seul droit un peu consistant que nous, les travailleurs, on peut avoir dans cette société capitaliste. Avoir droit à un emploi, le droit de gagner sa vie. Bah, même là-dessus, bon, c'est pas un problème pour tous ces gens. Alors voilà, évidemment, ces leçons de morale, hein, ces leçons de non-violence, bon, on a envie de leur renvoyer, hein, de leur renvoyer dans la figure. Et la réalité, c'est que c'est flambé, là, de colère et de violence, mais ils vont en avoir d'autres. Hein. On se souvient de la révolte des banlieues, c'était 2005. Mais comment pourrait-il ne pas y en avoir d'autres? Vu justement la situation actuelle, hein, une grande partie de la jeunesse qui, de toute façon, qui ne se voit pas d'autre avenir, hein, que de quelques heures de boulot, du chômage, quelques heures de boulot payées au SMIC en plus, hein, où de toute façon on n'arrive même pas à vivre avec ça. Donc la réalité, c'est qu'ils vont en avoir encore des révoltes comme ça. Nous, on pense qu'on est qu'au début, et que, y compris cette révolte des Gilets jaunes, eh ben, c'est que le début d'une vague de révolte. Le mécontentement, il est profond. Et en fait, il ne peut que grandir, ce mécontentement. D'abord, parce que Macron ne va absolument pas répondre à cette colère sociale. Hein, il ne va pas y répondre, c'est une évidence. L'issue du grand débat national, ça va être des tours de magicien, un petit peu comme ce qu'il a fait avec, vous savez, la prime d'activité, là, où il nous a expliqué qu'il augmentait le salaire, le SMIC, de 100 euros, puis en réalité, c'est de l'argent qu'il prend dans une autre de nos poches, quoi. Hein, et puis, pouf, pouf, le tour de passe-passe, voilà. Ça va être de cet ordre-là, ou des mesures symboliques peut-être, ou encore un certain nombre de changements institutionnels, ok, mais c'est évident qu'il ne veut pas toucher un cheveu de la bourgeoisie. Hein, donc en matière de pouvoir d'achat, d'inégalité sociale, il n'y a rien qui va avancer. Hein. Et puis alors, l'autre raison, peut-être plus profonde, hein, c'est qu'en réalité, on s'enfonce dans la crise économique. On s'enfonce dans la crise économique, ça c'est une évidence. On a un gouvernement qui nous explique qu'il faut attendre les investisseurs, hein, les investisseurs demain, qu'ils vont venir, et puis qu'il y aura de l'emploi pour tout le monde, et puis que les salaires, et puis tout, la machine va redémarrer. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, la machine, elle va pas redémarrer. La réalité, c'est que le capitalisme, il est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau. Regardez comment la bourgeoisie, dans sa période de développement, elle a été capable de construire un tas de choses. Elle a construit des chemins de fer, des ponts, des routes, des grandes entreprises, etc. Mais regardez comment aujourd'hui, même entretenir ça, même entretenir les chemins de fer, même entretenir les ponts, ils sont même plus capables de le faire. Regardez, bon, ici dans la région Ascoval, et pas loin, hein, même reprendre une usine du type d'Ascoval, bah, ça n'a intéressé personne, aucun capitaliste. Hein. La réalité, c'est qu'ils veulent bien investir un peu si les profits sont garantis. Si les profits sont garantis à la clé, si les profits sont rapides, seront importants, etc., etc. Et dans cette période, non, les profits ne sont pas garantis. Parce qu'en réalité, c'est la guerre commerciale. Parce qu'on est dans une crise où ils se bouffent le nez entre eux. Et c'est une guerre commerciale qui a atteint une intensité. Incroyable. Parce que tous les marchés sont occupés. Tous les marchés sont occupés. Pour réussir à développer telle ou telle production, il faut forcément être le plus féroce dans la guerre commerciale. C'est ça, la réalité. La situation, en fait, elle est bouchée. Hein, y compris pour les capitalistes. Pour développer leurs profits. Alors, c'est très concrètement, vous savez, cette pression, ce chantage permanent à la compétitivité. Hein, parce que comme les profits, justement, ils ne peuvent pas les avoir en développant leur production, bah, ils ont une manière très simple de les accumuler, c'est en aggravant les conditions de travail, en aggravant les cadences, en pressant le citron, encore plus. Voilà. Le seul moyen pour eux d'y arriver, c'est effectivement d'intensifier l'exploitation. Ils n'ont pas d'autre moyen de faire. C'est-à-dire on est condamné finalement à une lutte de classe toujours plus féroce dans ce contexte de crise. Et ce n'est pas seulement la volonté de capitalistes particulièrement rapaces. Encore une fois, c'est inscrit vraiment dans la situation économique. S'ils veulent tirer leur épingle du jeu, eh ben, il faut que ce soit encore plus dur, encore plus... encore plus brutaux avec les travailleurs qu'ils exploitent. Et puis, ce qui va avec cette crise, c'est que comme les capitalistes, ils sont quand même plein de fric. Ils en ont par-dessus la tête. Hein. Enfin, vous avez vu les chiffres des grandes fortunes. Ça devient même des chiffres complètement hallucinants, puisque rien que Bernard Arnault, la première fortune de France, celui qui est à la tête du groupe LVMH, alors lui, sa fortune, elle est carrément estimée à 60 milliards. En un an, son patrimoine, elle a augmenté de 20 milliards. C'est de l'argent, ça dégouline vraiment à ce pôle-là de la société. Donc, cet argent, ils l'ont, il faut forcément qu'ils le placent quelque part. Ça ne les intéresse plus, le placer dans la production, c'est trop compliqué, c'est trop long pour faire des profits, ça ne les intéresse plus. Alors, où est-ce qu'ils peuvent le placer, tout ce truc? Dans le seul marché qui est, lui, complètement illimité, c'est la finance. Et c'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliards, des dizaines, des centaines de milliards quotidiennement vont vers la finance. Finance qui se développe à tel point qu'il y a des bulles spéculatives comme ça qui menacent de nous péter à la figure du jour au lendemain. Et ça, c'est pas seulement nous, lutte ouvrière, les révolutionnaires qui le disons, mais c'est les propres experts de la bourgeoisie, c'est les propres experts économiques de ces gens-là qui nous expliquent. En début d'année, en 2019, ils nous ont expliqué que soit 2019, ça serait une année d'instabilité, au pire, nouveau crack, comme celui de 2008. C'est ce qu'ils ont expliqué. Alors, on est dans un système économique comme celui-ci, où ce qui nous pend au nez, c'est effectivement un nouveau crack qui nous refasse plonger encore plus, qui nous renvoie encore plus en arrière. Et on est confronté à un capitalisme, pour résumer, de plus en plus prédateur. De plus en plus parasitaire, de plus en plus prédateur. Et ça, ça a des conséquences sur, bien sûr, ça explique le recul de la condition ouvrière, comme je l'ai dit, mais ça a des conséquences sur plein d'autres aspects de la vie, de la vie sociale, des relations internationales, parce que cette guerre commerciale, elle a des conséquences aussi internationales. C'est des tensions entre les pays, c'est des bruits de botte, c'est des menaces guerrières, c'est des menaces de bras de fer. C'est la conséquence aussi que le pillage, l'exploitation, il redouble aussi dans les pays pauvres. On est surpris aujourd'hui de voir des centaines de milliers de femmes et d'hommes quitter leur pays, chercher à vivre ailleurs. Mais d'où ça vient? Ça vient que ce pillage-là, il continue et que ces femmes et hommes ne peuvent plus vivre chez eux. Ce drame migratoire, où y compris ces femmes et ces hommes sont condamnés à errer de pays à pays ici, quand ce n'est pas à mourir, noyés dans la Méditerranée, ce drame, il est aussi finalement lié à ce grand capital prédateur. Et puis, autre catastrophe, dont tout le monde parle aujourd'hui, qui mobilise y compris une fraction de la jeunesse, ben c'est l'écologie. C'est une évidence aussi que sur ce terrain-là, ce grand capital, aveugle, irresponsable, nous mène à la catastrophe. Hein. De toute façon, vous avez, enfin, dans tous ces grands groupes, et ça on le sait, et les mineurs de la région sont bien placés pour le savoir, tous les travailleurs qui ont bossé avec l'amiante, qui ont été empoisonnés par l'amiante, ils sont bien placés pour le savoir. Tous ces grands groupes, de toute façon, ils ont un principe de fonctionnement. C'est je fais mon fric, et après moi le déluge. Après moi le déluge. Qu'est-ce qui arrive aux travailleurs? Rien à faire. Qu'est-ce qui arrive à l'environnement? Rien à faire. Et c'est ce qui nous condamne. C'est ce qui condamne toute la société. Donc, voilà, je voulais insister sur cette crise parce que souvent, on voit que Macron est le problème posé par sa politique anti-ouvrière, mais le problème, il est bien plus large. Il est bien plus profond. En réalité, c'est le problème du système capitaliste. C'est le problème qu'on a un grand capital qui domine et qui bloque toute la société. La société, elle a pourtant plein de possibilités, plein de potentialités. Elle n'a jamais été aussi riche, il n'y a jamais eu autant de techniques, il n'y a jamais eu autant... On pourrait en faire un tas de choses. Et ils bloquent tout. Ils bloquent tout parce que justement, eux, ils ont le pognon. Hein, et c'est eux qui décident. Et ils décident en fonction de leur intérêt individuel, évidemment, pour accumuler toujours plus dans leur poche. Alors, tout ça pour dire que nous, on pense que de toute façon, des révoltes, il va y en avoir. Et ça peut partir de plein de côtés différents. Et effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, il peut se développer encore. Hein. Il peut prendre aussi dans les entreprises, il peut y avoir une réaction et un mouvement qui part, y compris des jeunes, de la jeunesse, qui demande des comptes au gouvernement sur l'écologie. Ça peut aussi partir de là. Ça peut partir de plein de choses. Il y a tellement d'injustices. Mais nous, ce qu'on pense, et ce pourquoi on milite, c'est pour que la révolte, elle se développe dans le monde ouvrier. Et que les travailleurs en soient le fer de lance. Parce qu'on pense que justement, eux, ils sont en mesure, véritablement, d'apporter une solution. Une solution à toutes ces impasses. Hein, parce que bah, c'est les travailleurs. C'est les salariés des grands groupes qui sont confrontés tous les jours à la classe capitaliste qu'il faut mettre en cause. Et leur combat quotidien, leur combat pour leurs conditions de vie, pour leur salaire, pour leur emploi, eh bien ils les confrontent immédiatement à ceux qu'il faut toucher, à ceux qu'il faut mettre sous surveillance, à ceux qu'il faut mettre sous contrôle. Nous on pense effectivement que là c'est la clé, c'est les travailleurs qui l'ont entre leurs mains. Alors, et on fait le choix de la classe ouvrière. Bon, ben, vous connaissez notre nom, lutte ouvrière. C'est pour cette raison-là. C'est parce qu'on pense effectivement que la révolte des travailleurs, c'est elle qui sera fertile. C'est elle qui pourra trouver une issue à la société. On pense pas ça parce que les travailleurs, ils sont spécialement plus révolutionnaires que les autres. Pas du tout. On sait très bien que quand il n'y a pas de combativité dans le monde du travail, que quand les gens ne se battent pas, ben, c'est la résignation. C'est l'adaptation à la société et c'est donc aussi souvent, chacun pour soi. Hein, dans plein d'entreprises, c'est l'individualisme, c'est le carriérisme, c'est sous toutes ses formes. Ça peut être le corporatisme, ça peut être le... Voilà, mais c'est chacun pour soi. C'est-à-dire qu'y compris les travailleurs, ils sont eux-mêmes le relais des valeurs de la bourgeoisie, des valeurs patronales. Hein, et ça, on le vit tous. Hein, quand on ne se bat pas, on essaie de passer entre les gouttes, hein, sans sortir, de tirer son épingle du jeu tout seul. C'est ça la réalité. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que dès lors que les travailleurs se battent, et dès lors que justement ils entrent en action, eh bien, eux, ils touchent au cœur du problème. Parce que justement, ils touchent au cœur de la bête capitaliste, ils touchent au grand capital en fait. C'est les travailleurs qui fabriquent toutes les richesses, mais ils fabriquent aussi les profits, ils fabriquent aussi les capitaux sur lesquels repose justement le pouvoir de la bourgeoisie. Ça leur donne un levier que n'a pas d'autres catégories sociales dans le pays. Hein. On peut occuper les ronds-points pendant des mois sans que ça gêne PSA, sans que ça gêne la BNP, sans que ça gêne ce grand capital. mais occuper la française de mécanique, occuper la BNP, faire grève, là c'est autre chose. Là on touche au cœur de leur, hein, de leur, ben de leur fric et puis de leur pouvoir. Voilà pourquoi nous on pense que notre raison d'être et notre militantisme, eh ben, il est tourné dans cette direction-là. C'est-à-dire de faire en sorte que les travailleurs, ils aient une politique qui soit consciente de ce qu'ils représentent, de la force qu'ils ont et de ce qu'ils représentent même pour l'avenir de la société. Et ils ont la capacité, pas seulement de se battre, les travailleurs, ils ont la capacité de construire une autre société. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Parce que c'est bien beau de dire, il faut renverser cette société. Mais on construit quoi à la place? En fait, les travailleurs, ils sont capables de construire une autre société. Parce qu'ils sont capables de faire tourner les entreprises collectivement. Et ils sont capables d'impulser une société avec des valeurs collectives, des valeurs communes, justement. Ils portent en eux une économie supérieure, une société organisée de façon plus rationnelle, pour satisfaire les besoins de la population. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous, on veut militer, effectivement, dans cette direction-là. Voilà. Et en résumé, aider les travailleurs à se battre contre, effectivement, le grand patronat pour ses intérêts et avec cette conscience que l'aboutissement de ce combat, ça doit être de renverser la bourgeoisie. De renverser la bourgeoisie, c'est-à-dire l'exproprier, c'est-à-dire de lui prendre ses grands groupes. Je parle des grands groupes parce que c'est eux. De lui prendre ses grands groupes et puis les remplacer à la tête de ces grands groupes et de prendre le pouvoir politique. Ça doit être, cette perspective-là, elle doit être dans la tête des travailleurs. C'est des perspectives révolutionnaires. C'est qu'effectivement, on confisque, on renverse le pouvoir de la bourgeoisie et on la remplace au pouvoir. Alors bon, tout à l'heure, j'ai dit ça au journaliste qui m'a interviewé. Il m'a dit, on en est loin. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous le pensent aussi, que ces perspectives-là, d'exproprier la bourgeoisie, de prendre le pouvoir, nous-mêmes, les travailleurs, c'est très très loin des consciences. Ça l'est, oui et non. Oui et non, en fait. Parce qu'en fait, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le nombre de travailleurs qui sont entrés dans la bagarre. De façon très, très profonde et très, très impressionnante, en Algérie, par exemple. Parce que là, on a un vrai soulèvement de toute la population et de toute la classe ouvrière entraînée dans cette mobilisation. Et là, je peux vous dire qu'y compris en Algérie, tous ceux qui se mobilisent, qui prennent ce risque, parce que là, c'est un risque de partir à la bagarre, ils se posent un certain nombre de questions. Ils s'en posent beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste au Bouteflika qu'on élimine? Mais le système, c'est au-delà de Bouteflika, c'est tout un système. D'ailleurs, ils disent « système dégage ». Mais c'est quoi le système? Et est-ce que foutre en l'air la clique de Bouteflika, ça va arrêter la corruption? Est-ce que ça va arrêter le fait qu'il y a une minorité qui confisque toutes les richesses de ce pays à son profit et qui fait que c'est un pays riche, mais qu'en même temps la population elle est très pauvre? Toutes ces questions-là, ils se les posent. Eh bien, nous, on pense que précisément, le rôle d'un parti ouvrier, c'est d'apporter des réponses. Quand les travailleurs, justement, ils sont prêts à se battre, quand ils se lancent dans le combat, il doit leur apporter des réponses, offrir une politique, offrir une perspective. Plus près de chez nous, prenons les gilets jaunes. Là aussi, il y avait beaucoup de travailleurs qui sont engagés dans ce mouvement. C'est à une autre échelle. La mobilisation, elle est moins profonde que celle qui a éclaté en Algérie. Mais enfin, quand même, c'est une mobilisation qui a beaucoup touché, y compris d'ailleurs au-delà de ceux qui étaient mobilisés. Parce que ce qui est marrant, c'est quand on discute avec les gens, disons, moi je passe sur les ronds-points, j'ai jamais mis les gilets jaunes, mais je suis gilet jaune quand même. Ça, vous l'avez, je pense que... Voilà. Donc, en fait, c'est une mobilisation où les travailleurs, ils se sont investis. Il y avait beaucoup d'ouvriers, il y avait des chômeurs, il y avait à côté de commerçants, d'artisans, de femmes au foyer. Enfin, ça a été ça, ce mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement où les travailleurs, ils ont très vite mis en avant leurs revendications, leur premier souci, c'est-à-dire pouvoir d'achat, les petites retraites. Hein, le fait que voilà, les salaires sont trop bas, l'injustice sociale, ils ont dit, ils ont posé toutes ces questions. Hein, et puis ils ont cherché à s'organiser. Hein. Mais en même temps, tant plus ce qu'on voit avec les gilets jaunes, c'est qu'il ne suffit pas d'être dans la rue, il ne suffit pas d'être mobilisé pour trouver forcément le chemin hein, pour arriver à faire valoir ses revendications. Hein, regardez comment c'est difficile aujourd'hui, comment un certain nombre se disent même bon, ben, on est confronté à une impasse, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, eux aussi, ils se posent un tas de questions. Hein, ils voient bien que là, ils sont en train de tourner en rond et que ça ne débouche sur rien. Donc là aussi, il y a plein de questions. Ben, nous, on voit notre rôle comme celui de ceux qui peuvent apporter un certain nombre de réponses à tout ça. Ils peuvent apporter un certain nombre de réponses et... c'est notre démarche politique profonde, c'est ce pourquoi on milite pour armer les travailleurs d'un programme, d'une politique qui fasse que quand ils se battent, eh bien ils sachent où aller, quelles revendications mettre en avant, comment essayer de s'organiser. C'est ça notre raison d'être. Et y compris dans cette campagne électorale pour les européennes, eh bien c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer justement d'apporter une réponse à tous les travailleurs aujourd'hui, hein, qui disent comment on fait pour augmenter notre pouvoir d'achat. Comment on fait pour s'en sortir, tout simplement, pour avoir le droit de vivre dignement dans une société riche, pourtant. Alors, pour nous, ces réponses, eh bien, on va essayer de les faire passer au travers de notre programme. Hein. C'est un programme que certains connaissent déjà en trois points. Mais c'est un programme qui répond, justement, à cette préoccupation du pouvoir d'achat. Cette question du pouvoir d'achat, regardez comment elle a été... réfléchi dans le mouvement des gilets jaunes. Beaucoup ont dit le problème du pouvoir d'achat, c'est le problème des taxes, c'est le problème des impôts. Et c'est vrai que si on paye plus d'impôts, si on paye plus de taxes, forcément on a moins de pouvoir d'achat. C'est sûr, il y a un lien. Mais enfin quand même, le pouvoir d'achat, c'est d'abord et avant tout son salaire. C'est d'abord et avant tout sa pension de retraite, c'est ce qui rentre. Puis de l'autre côté, c'est les prix. Est-ce qu'ils augmentent? Et qui est-ce qui fixe les salaires? Et puis qui définissent au bout du compte les retraites. Hein. Parce que quand on est mal payé toute sa vie, c'est encore pire à la retraite. Hein. Il y a un lien. Qui est-ce qui fixe ça? Qui est-ce qui fixe les prix? C'est la classe capitaliste. Hein. Désolé, hein. C'est pas Macron. Macron, il mène une politique anti-ouvrière, il justifie tous les choix, évidemment, de la bourgeoisie, il leur fait des cadeaux, ok. Mais ceux qui tiennent tout ça, c'est cette classe capitaliste. Et les revendications qu'on doit exprimer, c'est vis-à-vis aussi ce grand patronat. Pour augmenter son pouvoir d'achat, il faut augmenter les salaires. Et vous les augmenter considérablement. Hein, parce qu'en réalité, avec le SMIC et même avec sa prime d'activité, c'est indigne. C'est indigne, voilà. Ça reste indigne. Donc il faut augmenter considérablement les salaires, les pensions de retraite. Et puis, il faut les indexer sur les prix. Parce que on arrive à arracher une augmentation de 4, 5 ou 10%, et si les prix augmentent de 20 ou de 30%, le résultat sera nul. Donc le problème, c'est de revendiquer cette indexation. Alors aujourd'hui, y compris dans le mouvement, il y a l'idée de réindexer les retraites sur les prix, c'est une revendication légitime. Il faudrait faire aussi sur les salaires. Hein. Mais d'abord, ils augmentent. Hein, ils augmentent le tout. Hein, parce qu'on ne peut pas se satisfaire, effectivement, de 1300 ou de 1400 euros aujourd'hui. Donc, et la revendication, et on peut le faire, bien sûr. Il y a l'argent pour ça. Il faut prendre sur les profits. Donc, premier point, premier objectif que nous, on veut mettre dans la conscience des travailleurs, hein, c'est qu'il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires, les pensions de retraite et les indexer sur les prix. Et puis, l'autre problème, c'est que le pouvoir d'achat, c'est aussi la question de l'emploi. Hein, parce que si on n'a pas de boulot, il n'y a carrément pas de pouvoir d'achat. Hein. La misère, c'est s'il n'y a pas de boulot, et aujourd'hui, il n'y a pas de boulot pour beaucoup. Et la réalité, c'est que quand on nous parle d'emploi, c'est souvent quelques heures de travail. C'est pas un vrai emploi. Hein, pour plein de femmes et d'hommes, c'est cette précarité, quelques heures de boulot, hein, mais c'est pas ça un emploi. Donc il faut un emploi pour tous. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul véritable droit que les exploités peuvent avoir dans cette société capitaliste. Avoir un emploi, pouvoir gagner, avoir le droit de gagner leur vie en travaillant. Revendication. Bon, ça doit être... Pourtant, c'est élémentaire, c'est vital pour nous. Et ça passe forcément par l'arrêt de toutes ces suppressions d'emplois dans ces grands groupes. Quand on voit qu'un groupe comme BSA, qui aligne 3,7 milliards de bénéfices cette année, continue de supprimer des emplois, c'est inadmissible. C'est révoltant. Donc ça passe par la suppression, par l'arrêt de toutes ces suppressions d'emplois. Et puis, de toute façon, c'est évident, on ne résorbera pas le chômage, les 6 millions de femmes et d'hommes qui n'ont pas de boulot, si on n'impose pas la répartition de l'emploi entre tous. Et il faut se battre pour répartir l'emploi entre tous. C'est quand même fou de voir que ceux qui sont au boulot croulent sous la charge de travail, avec des horaires délirants, avec des cadences qui démolissent la santé à une vitesse dingue, hein, où on leur demande de faire des heures supplémentaires, où on leur demande d'en faire toujours plus, et puis les autres sont condamnés au chômage. C'est complètement, c'est de la folie. Donc revendiquer effectivement et imposer, en tout cas, c'est une revendication qu'il faut mettre en avant. La répartition du travail entre tous, pour que chacun ait droit à un emploi. Et puis, la troisième chose qu'on veut faire avancer dans la conscience des travailleurs, et qu'on met à notre programme, c'est la nécessité de contrôler l'argent qu'il y a dans ces grands groupes, et de contrôler les faits et les gestes de la classe capitaliste. Le mouvement des Gilets jaunes a évoqué le problème, a parlé des problèmes de contrôle, mais uniquement en ce qui concerne l'argent de l'État. Uniquement en disant, ça serait normal, on devrait pouvoir contrôler l'argent de nos impôts, ce qu'il devient, etc. etc. C'est vrai, c'est légitime. Bien sûr que ça, nous aussi, on pense que ça serait la moindre des choses. Mais pourquoi ne pas avoir le même raisonnement en ce qui concerne les grands groupes? Quand on passe sa vie à bosser dans n'importe quelle entreprise, on verse en quelque sorte notre impôt en nature. Nos heures de travail, là, c'est notre impôt en nature. C'est notre. C'est les richesses qu'on crée, c'est l'argent qu'on donne. Pourquoi on ne serait pas en droit de voir où il va ce pognon? Où part tout cet argent? Alors qu'à la fin de l'année, ils annoncent des bénéfices, ils arrosent les actionnaires. Et il nous explique que pour nous, les travailleurs, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'allègement de la charge de travail. Bye, barou. Nous, on veut voir, justement, et on mesurera comment ces gens-là sont des parasites. Comment, effectivement, ils aspirent toutes les richesses pour eux. Donc, imposer ce contrôle, pour nous, c'est quelque chose de aussi... en tout cas... Faire en sorte que cette idée, elle apparaisse comme légitime dans la tête des nôtres, c'est quelque chose de très important. Parce que, toute l'année, on nous tient ce discours qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour refaire les lignes de la SNCF, il n'y a pas d'argent pour l'éducation, il n'y a pas d'argent pour la santé, etc. Hein, et puis, on découvre qu'il y a plus de milliardaires qui sont plus riches, etc. Alors, mettre en lumière tous ces circuits de l'argent. Qu'est-ce qu'ils en font de leur argent? Ça nous donnerait un levier, justement. Un levier pour nous battre et puis pour aller jusqu'à contester. Plus loin, justement. Et mettre en évidence leur irresponsabilité à tous ces gens-là. Donc voilà, nous, la démarche qu'on veut avoir aux élections européennes. Dans cette campagne des européennes, eh bien, on veut en profiter, comme on le fait d'ailleurs dans toutes les campagnes, pour proposer aux travailleurs un programme, une politique, un programme de lutte dont ils pourraient se servir, justement, quand ils rentrent en bagarre. Et encore une fois, on n'est pas en avance là-dessus. On est même plutôt en retard, parce qu'il y a un tas de travailleurs qui sont déjà partis en bagarre, à leur façon, avec... les moyens qui voyaient à leur disposition, mais ils sont partis en bagarre. Nous, cette politique-là, il faut qu'on la diffuse, qu'on la popularise. Donc Donc voilà pourquoi dans cette campagne, eh ben, on va axer sur, on va dire aux travailleurs, il ne faut pas se laisser dévier. Il ne faut pas se laisser piéger par les faux débats sur, hein, où on va nous demander, l'Europe, tu la veux à combien 28, 27, 10, 3, 2, 1. Tout ça, c'est des faux débats. Tout ça, c'est des faux débats. Et bien nous, on profite de cette campagne pour faire avancer les intérêts et le programme indispensable pour les travailleurs. Et vous voyez, y compris, je suis un peu longue, les gilets jaunes. C'est assez juste quand certains disaient, ben, on va essayer de planter une lisse. Parce que finalement, pourquoi ne pas dire dans ce combat politique ce que tu as eu envie de dire pendant des mois et des mois en te mobilisant? C'est normal. Donc nous, c'est ça notre orientation. Et quant à l'Europe, je vais aller assez vite parce que j'ai déjà parlé trop longtemps, mais sur l'Europe, eh bien, d'abord, on fera tout pour que les travailleurs ne se laissent pas piéger par la fausse opposition que mettent en scène aujourd'hui Macron d'un côté et Le Pen de l'autre, en faisant croire qu'ils proposent des options complètement opposées sur l'Europe. La réalité, c'est que tout ça, c'est très superficiel. Hein. Quand Le Pen, elle dit qu'il faut mettre des barrières autour de la France, Macron, il dit que les barrières, il faut les mettre autour de l'Europe. Mais c'est toujours pareil, il faut se protéger des étrangers, des migrants, il faut... Et puis, au gouvernement, en réalité, ils font la même politique anti-ouvrière, la même. Donc, il ne faut pas se laisser piéger par cette fausse... Comment dire, hein, cette fausse opposition. Nous, on dira, on affirmera hein, nos perspectives, y compris pour l'Europe, eh ben, c'est une Europe des travailleurs véritablement unie et sans frontières. C'est ça, nous, nos perspectives. C'est une Europe unie et sans frontières, mais on sait que la bourgeoisie, que tant qu'on est... qu'on est sous cet ordre-là qui est dominé par la bourgeoisie, ça sera irréalisable. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et tout ce qu'ils sauront faire, hein, de leur côté, ben, ça sera une machine à opprimer encore plus les travailleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. L'Union européenne, aujourd'hui, c'est une machine de guerre contre les travailleurs. Elle a été construite uniquement pour les intérêts des bourgeois et ils s'en servent comme d'un instrument pour nous taper dessus. Hein. C'est ça, la réalité. Mais... Donc, évidemment, l'Europe, elle n'est pas belle à voir. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que les États nationaux, ils ne seront pas plus beaux à voir, hein. Y compris toutes les institutions nationales, elles ont ce même rôle, hein, d'imposer la politique des riches, de la bourgeoisie, etc. Alors, nous, dans cette élection, on ne dit pas hein, qu'il faut, contester telle ou telle institution, les institutions européennes, au profit des institutions nationales. Nous, tout ça, on les combat toutes. Nous, notre problème, c'est pas de choisir les institutions hein, qui conviennent des institutions de la bourgeoisie. C'est, encore une fois, c'est d'abattre le grand capital. C'est ça, notre problème. Alors, ça nécessiterait cette perspective d'une Europe unie, sans frontières, qui développe des relations de coopération fraternelle entre les peuples. Ça nécessiterait, bien sûr, les travailleurs au pouvoir. Une révolution. Bon. D'ici là, nous, notre projet européen, c'est de faire en sorte que les travailleurs ils mènent leur combat et qu'ils fassent bloc, que les travailleurs d'Europe fassent bloc, qu'ils ne se laissent pas diviser, qu'ils ne se laissent pas opposer les uns aux autres. Parce qu'en réalité, les problèmes de chômage, les problèmes de petits salaires, de petites retraites, et les injustices sociales, c'est à l'échelle de toute l'Europe. Tous les travailleurs européens sont confrontés à ça. Alors la réalité, c'est que le programme que j'ai, c'est de nous faire en sorte que ce programme, y compris qu'on relaie là à l'échelle de la France, eh ben, qu'il soit relayé, hein, qu'il puisse être dit dans toutes les langues européennes, hein, et puis qu'il puisse permettre de faire avancer le combat des travailleurs. Voilà pour cette